France Culture. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
De la pêche et déforestation illégale à la contrebande de produits phytosanitaires, des espèces protégées, objets de braconnage et de trafic aux attaques mêlant déchets ou énergies renouvelables, les éco-délinquants et criminels verts sont responsables de dégâts environnementaux dévastateurs, attirés, on l'imagine bien, par l'appât de gains faramineux. Des pratiques qui mettent à mal la biodiversité et la planète et qui flirtent avec le crime en bande organisée. La criminalité verte, révélation sur la réalité et la traque d'un business juteux. Nous en parlons aujourd'hui avec nos deux invités. Marc Lomasi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien rédacteur en chef adjoint du Parisien aujourd'hui en France, journaliste spécialiste des sujets liés à l'environnement et auteur du livre « Livre noir de la criminalité verte » édité chez Kalman Lévy. Et avec nous également dans le studio en direct, Pierre-Édouard Guilin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général délégué Police Connaissance Expertise de l'OFB. L'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue à nos auditeurs également dans le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde. Et merci à l'équipe à mes côtés, Célestine Babinet, attachée d'émission, Aurélie Marseille, Vanessa Chang, Pierre Pinault de l'INA et les équipes de documentation de Radio France que je salue. Émission réalisée par Alexandra Malka, à la technique Noé Chabanne.
À l'aéroport de Marseille, les douaniers tentent chaque jour de lutter contre un trafic international.
Vous venez d'où, s'il vous plaît ?
Tunisie. Les conditionnements sont tellement exigus parfois. Les petites tortues, ça rentre, comme je l'ai dit, dans une boîte à bijoux parfois. Une tortue, quoi, un bébé tortue. Des oiseaux dans une boîte à chaussures. Il peut y avoir des tas de caches possibles, hein, y compris le double fond de la valise.
Lors de leur dernière saisie, les douaniers ont trouvé des tortues plus petites qu'une main, des reptiles aussi, arrachés de leur milieu naturel et importés illégalement par des touristes peu scrupuleux, mais pas seulement.
Vous avez aussi des réseaux structurés qui connaissent très bien les opportunités. Il faut voir qu'une tortue grecque, elle peut être vendue entre 30 et 150 euros sur le marché français, alors que ça se trouve assez facilement dans des pays comme la Turquie, le Maroc ou la Tunisie.
Les trafiquants risquent 3 ans d'emprisonnement, 7 s'ils sont en bande organisée. Dans la quasi-totalité des cas, les animaux, eux, ne retourneront jamais dans leur milieu naturel, mais resteront en captivité.
Reportage diffusé sur France 24 le 15 mars 2025. Un sujet ô combien d'actualité. Hein. Je rappelle que se déroule en ce moment le sommet de l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, à Abu Dhabi, en ce mois d'octobre 2025. C'est le quotidien sur le territoire français. Marc Lomasi, ce qu'on vient d'entendre dans le reportage. Vous avez commencé votre livre Enquête à Roissy.
Oui, parce que Roissy, c'est la plaque tournante, c'est devenu la plaque tournante d'une contrebande planétaire d'espèces protégées. Et donc, les douaniers, quand ils ouvrent les valises ou quand ils inspectent les soutes des avions cargo, ils découvrent de tout, des hippocampes, des crânes de singes, des peaux d'animaux, des mygales, tout ça pour alimenter un marché à la fois de collectionneurs. Ça peut aussi être de la viande de brousse, de l'antilope, boucanée, cuite, que les douaniers, quand ils ouvrent les valises, découvrent parfois à la limite de la pourriture. Donc c'est un peu étonnant. Et ça s'achète 2 euros sur les marchés à Libreville ou à Bamako. Et ça se revend 80 à 100 euros, parfois plus, en France, parce que ça fait partie de la cuisine traditionnelle africaine. Donc là, effectivement, ce sont des réseaux organisés. Avec des affaires tout à fait étonnantes. Je me rappelle d'avoir rencontré un douanier qui me racontait que ils avaient découvert sur plusieurs mois près de 400 têtes de singes. Ils se demandaient ce que c'était que ce trafic qui venait du Cameroun et qui était à destination des États-Unis et qui transitait par Roissy. C'était en fait pour alimenter à la fois les sociétés de chasse américaines qui l'offraient comme trophée, mais aussi des cérémonies vaudou ou des cabinets de curiosité. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Dans votre salon, vous avez des squelettes d'orang-outan, des crânes de singes. Voilà, les Américains sont des gens parfois un peu étranges. Donc voilà, des trafics tout à fait étonnants, mais le trafic d'espèces protégées et la criminalité environnementale de manière générale, c'est aujourd'hui le troisième la troisième branche du crime organisé derrière les stupes et la contrefaçon. Donc c'est un marché absolument gigantesque qui attire des groupes criminels effectivement très organisés.
Donc la France peut être la destination, mais peut être aussi une plaque tournante. Si je relève les chiffres que vous nous donnez, Marc Lomasi, à Roissy, c'est un quart des saisies hexagonales des espèces menacées ou de produits qui en sont issus. Et puis c'est une ruche où se croisent jour et nuit 100 000 employés, 70 millions de passagers. On imagine effectivement le volume et le travail des agents des douanes qui n'ont probablement pas les moyens de tout contrôler.
Non, ils n'ont pas tous les moyens de tout contrôler. Donc, à l'expérience, le fameux flair des douaniers, ils repèrent assez vite dans les files de passagers qui débarquent ceux qui pourraient être suspects. Le problème, c'est que quand vous avez 10 vols qui arrivent d'Afrique, avec à leur bord chacun de ces vols 200 personnes, vous pouvez pas arrêter tout le monde. Et puis, dès que vous arrêtez des personnes pour fouiller leurs bagages, que vous confisquez de la marchandise, notamment de la viande de brousse, y a des tensions, parce que tout de suite, ces personnes qui viennent d'Afrique, qui sont parfois des mules, au sens du trafic comme on a dans les narcos.
Avec les narcos, oui.
Ouais. Très vite, il y a des accusations de racisme qui fusent. Donc, c'est très, très compliqué pour les douaniers. Et il y a une autre chose qui est très compliquée pour eux, c'est que quand vous avez de la viande de brousse comme ça, qui est du porc épic, du pangolin ou de la chauve-souris, ce sont des viandes qui peuvent être porteuses de virus. Et donc, il y a un risque de zoonose. Donc, la patronne France de l'UICN, dont vous parliez tout à l'heure, m'a dit que... au rythme où ça va, parce que ce trafic est devenu incontrôlable, il y a un risque sérieux en France, à cause de la consommation de viande de brousse, d'une nouvelle épidémie mortelle type Ebola.
Pierre-Edouard Guilin, sur ce sujet-là, c'est effectivement une préoccupation, et vous pouvez aussi nous parler du rôle de l'OFB, mais sur ces questions-là de bombes sanitaires.
Alors effectivement, dans l'exemple qu'on a évoqué ensemble, le sujet de l'importation d'espèces, il appelle deux risques. Le risque d'extinction de ces espèces quand elles sont prélevées en dehors de leur milieu, évidemment. Ça, c'est pour ceux que Marc Lomasi a appelé les collectionneurs, qui sont effectivement friands de l'espèce rare qui va être le symbole de leur collection. Voilà, on est dans un syndrome classique. Et donc là, il y a un effet sur le milieu de départ. Maintenant, le risque auquel on est confronté avec l'importation de ces espèces... que ce soit des espèces, entre guillemets, en bonne santé dans leur milieu, elles vont apporter des pathogènes qui sont pas forcément leur place dans un écosystème tempéré comme le nôtre, par exemple. Ou parce qu'effectivement, comme l'a rappelé Marc Lomasi, on a des risques de viande qui sont plus ou moins en décomposition. C'est donc très frappant quand on est à Roissy. Et pour nos collègues douaniers, c'est un sujet aussi de protection au moment où ils font leurs activités. Et donc, on peut importer effectivement des maladies, qu'elles soient pour l'homme, pour les animaux. C'est justement l'exemple de ce qu'on essaye de développer de plus en plus dans les politiques de biodiversité. C'est une approche globale, notamment qu'on a appelée une seule santé. Une seule santé animale.
Une santé, une planète.
Une santé animale, une santé humaine et une santé des écosystèmes. Les trois sont liés. Et quand l'homme, par un trafic, par une habitude de collection, par ses modes de consommation, vient perturber tout ça, il peut en moment en payer les frais. Et c'est effectivement le risque qu'on a à craindre d'une pandémie par cette voie d'entrée qui est majeure en France.
Alors, rappelez-nous le rôle de l'OFB, une police sur les enjeux de santé environnementale et publique, enfin une santé publique aussi.
L'OFB fait de la police parmi différentes actions, il fait de la connaissance, il fait de l'accompagnement des acteurs dans leur transition écologique pour la prise en compte de la biodiversité et de l'eau. Et effectivement, nous avons une police de l'environnement qui est un peu particulière parce qu'elle est à la fois sur les usages qui sont faits de la nature, donc c'est le cas classique du contrôle de la chasse par exemple, ou du contrôle de la pêche, quand vous allez faire de la pêche à pied lors des grandes marées, là c'est en partie la saison, mais aussi et surtout c'est une police qui est centrée sur les enjeux. Et souvent, la police de l'environnement, on se demande pourquoi on va contrôler tel ou tel usage de produits ou telle pratique qui vient dégrader le milieu. C'est parce qu'on considère qu'il y a un enjeu très important, à la fois pour la biodiversité, mais aussi même pour les activités humaines, parce que ça peut jouer sur notre santé, c'est le cas de tout ce qu'on fait en matière de lutte contre des usages néfastes de produits phytosanitaires, parce que les doses sont pas respectées, parce que les conditions d'emploi sont pas respectées, ou tout simplement parce que ça va polluer nos ressources naturelles, en particulier nos milieux aquatiques, et donc l'eau qu'on consomme. Et donc c'est sur ces enjeux aussi qu'on souhaite se renforcer pour expliquer voilà, l'importance de la police de l'environnement, c'est parce qu'elle nous protège aussi et elle va préserver notre avenir.
Marc Lomasi, vous avez travaillé en étroite collaboration avec des enquêteurs des douanes, la gendarmerie, d'autres organes spécialisés. Vous nous montrez combien cette criminalité verte est liée au grand banditisme, à des trafiquants, des tueurs dans le monde. Et pourtant, c'est un sujet qu'on ne connaît pas. Dites-nous concrètement comment ça fonctionne. Vous nous parlez de grossistes, de revendeurs, de comptes offshore dans des paradis fiscaux, des valises de billets, des personnes sur écoute. On voit bien que là, c'est un maillage. Quand on parle de cette police environnementale, en tout cas, c'est un maillage entre de très nombreux services qui travaillent ensemble. On retrouve Interpol, Europol, etc., etc.
Oui, en fait, la prise de conscience que les grandes mafias internationales s'étaient investies dans cette forme de criminalité, elle est relativement récente. Et c'est effectivement à l'occasion de grosses opérations coup de poing. Alors ça peut être mené à l'échelle internationale, ça c'est Interpol, qui coordonne les activités des polices et des douanes à l'échelle mondiale, qu'on s'est aperçu que au cours des arrestations, les profils, on retrouvait des profils de cartels mexicains, mafia bulgare, mafia brésilienne, triade chinoise, etc. Donc on avait affaire à ce que les forces de l'ordre appellent le haut du spectre de la criminalité. C'est vraiment le grand banditisme international. Pourquoi ? Eh bien parce que il se trouve que quand on parle de trafic, par exemple, d'espèces protégées, vous avez, si on prend l'un des trafics les plus lucratifs qu'on découvre à l'aéroport de Roissy, c'est le concombre des mers. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un animal qui est considéré dans la médecine traditionnelle chinoise comme ayant des vertus médicinales. Et donc ça vaut 20 euros quand c'est pêché sur place, mais ça peut atteindre 2, 3, 4, 5 000 euros le kilo en Asie. Et donc ce sont des sommes absolument considérables. Même chose pour le trafic planétaire des bébés anguilles pêchés sur nos côtes. Ça vaut 200 euros le kilo quand c'est pêché de manière illégale en France, mais ça en vaut jusqu'à 40 000 euros le kilo une fois devenu adulte sur les marchés japonais.
Alors pour bien comprendre justement ce trafic et la traque, partons du côté de la Civelle, puisque vous nous en parlez, Marc Lomasi. Reportage diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine le 13 juin 2021.
Ce trafic de civelle porte sur un peu plus de 18 millions d'euros parmi les personnes interpellées, des habitants du secteur de Saujon. Au moment de leur mise en examen, un bateau et une voiture ont été saisis, mais également 680 000 euros sur des comptes bancaires.
La civelle, ça reste un gros trafic assez important. On a tendance, nous, à le comparer à du trafic de stupéfiants, parce que le kilo, parfois, peut aussi bien descendre à 240 euros le kilo, voire parfois monter jusqu'à 500 ou 550 euros le kilo. Donc ça reste un trafic assez conséquent.
Un trafic qui se fait généralement entre novembre et mars, au moment de la pêche à cet alevin. Concernant ce démantèlement de trafic international, l'affaire débute en 2017. Lors de contrôles routiers, des douaniers saisissent près de 800 kilos de civelle destinés à la Chine et 200 destinés à la Thaïlande. Il a fallu ensuite remonter jusqu'aux pêcheurs.
On est parti sur un tout petit indice, puis à force de remonter en fait cette petite bobine d'indice, on est tombé sur un trafic assez important. Par la suite, l'OCLASP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la sécurité publique, nous ont donné un très gros coup de main, ils se sont alliés à nous. Ils connaissent très très bien ce genre de trafic parce qu'il n'y en a pas que dans le 17, on en a dans le 44, on en a aussi dans le 64.
Des braconnages qui ont toujours existé mais qui sont de plus en plus rares. La pibale, c'est l'autre nom du bébé anguille, est une espèce protégée, sa pêche est très contrôlée. Des dérogations sont attribuées aux pêcheurs, il faut donc une licence professionnelle. Et puis surtout, depuis 2010, il y a un système de quotas de pêche qui limite les quantités prélevées chaque année.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Marc Lomasi, alors on a compris que ça ne se passait pas que dans le 33. Et d'ailleurs, c'est des noms d'affaires. Affaire Civelle 40, par exemple, dans les Landes. Anguilla 33, donc en Gironde. L'opération Lake, lancée par Europol dans 32 pays contre les trafiquants d'Alvin. Oui, c'est pas une petite affaire.
Non, c'est pas une petite affaire. On retrouve dans le trafic de civelle. Alors on part la civelle, donc le bébé anguille revient de la mer des Sargasses, traverse l'Atlantique, arrive sur nos côtes. Donc c'est un bébé anguille, donc c'est une espèce de petite larve comme ça, mais qui a une valeur absolument extraordinaire parce que les Asiatiques en sont fous, notamment les Japonais, et il se trouve que ils ont tellement consommé de ce qu'on appelle l'anguilla japonica que l'anguilla japonica a disparu.
Et l'anguille, il faut bien le préciser, ne se reproduit pas en captivité.
Il ne peut pas se reproduire en captivité, ouais. Se reproduit qu'une seule fois. C'est un animal, l'anguille, qui a un cycle de vie absolument fascinant. Mais effectivement, il ne peut pas se reproduire. Donc, pour les trafiquants, c'est une pêche miraculeuse. Un produit qui vaut de l'or, dont on a renouvelé les stocks et dont la demande est absolument extraordinaire, puisque les Japonais, les Thaïlandais, les Vietnamiens en raffolent, notamment au Japon, le kabayaki, la fameuse recette de la brochette de d'anguille, c'est vraiment un des plats traditionnels japonais. Donc, on part du pêcheur de Vendée ou de Charente-Maritime ou du Pays Basque, qui va vendre 200 euros le kilo, illégalement, à un mareyeur établi par exemple en Espagne, mareyeur avec des profils parfois un peu surprenants, hein. On a retrouvé un dénommé Tarzan, ancien figure de l'ETA, reconverti dans le trafic de civelle, un type qui a été arrêté au Sénégal, qui était un très gros dealer de cocaïne, qui a été arrêté, donc qui fait aujourd'hui plusieurs années de prison, donc on est déjà sur du lourd. Donc je disais, ça part à 200 euros le kilo par le pêcheur de Vendée, ça arrive en Espagne, c'est revendu 800 euros le kilo à des intermédiaires chinois, liés à des probablement aux grandes organisations criminelles chinoises. Et puis vous avez des mules, comme dans le narcotrafic, qui arrivent en avion à Roissy, à Lyon, à Barcelone, à Zaventem, l'aéroport de Bruxelles. Ils sont payés 1 000 euros le voyage. Ils viennent avec deux grosses valises de 32 kilos, le maximum autorisé. À l'intérieur de ces valises, du polystyrène, des poches de glace, de l'eau. Ils mettent les civelles à l'intérieur et puis ils arrivent à l'aéroport. Et ils partent pour la Chine, où ils vont être récupérés ces fameuses cargaisons de civelles, qui donc de 800 euros passent déjà à 5 000 euros.
Oui.
Voilà. Et dans un kilo de civelles, vous avez, donc qui sont des bébés anguilles, des larves, vous avez 300 anguilles qui vont devenir adultes. Et donc après, c'est revendu à prix d'or au Japon. Et là, c'est élevé dans des énormes fermes piscicoles. On les engraisse pour que ça devienne des anguilles adultes. Ce trafic-là, vous avez tous les ingrédients du polar, c'est-à-dire vous avez les go fast pour aller que les anguilles partent d'Espagne et remontent vers Roissy par exemple.
Le GIGN qui peut intervenir.
Vous avez le GIGN qui intervient pour intercepter les go fast parce qu'on sait qu'on a affaire à des gens dangereux, tellement dangereux même que il y a un gendarme qui m'a raconté que lors des écoutes, ils avaient découvert qu'il y avait dans ces fameux go fast de civelles des caches pour de l'argent, pour payer, pour essayer de corrompre les gendarmes, les policiers ou les douaniers qui allaient les arrêter.
Parce qu'on estime à 3 milliards d'euros par an les profits quand même.
En Europe.
En Europe.
Uniquement en Europe. En Asie, c'est beaucoup plus. Et puis, vous avez effectivement des circuits de blanchiment. Ça passe par des comptes en Bulgarie ou en Turquie. Et puis, les gens, les intermédiaires, les pêcheurs, etc., sont payés par des comptes offshore ou des systèmes traditionnels de compensation à la chinoise, la marque des triades japonaises. Bref, on est vraiment sur de la très, 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 très grande criminalité qui implique, je le disais, il y avait jusqu'à présent une alliance entre les triades chinoises et la mafia bulgare. Ça s'est mal passé parce qu'il y a eu tellement d'opérations de démantèlement, on en a parlé, Taxivel, Anguilla 33, qui a porté des coups très durs au trafic de civelle. Donc les triades chinois sont en train de redébarquer en Europe et de remettre les choses un peu dans l'ordre. Et donc c'est des nouvelles affaires qui vont arriver pour les gendarmes, pour les enquêteurs de l'EFB, les enquêteurs de la gendarmerie et des douanes.
Et on ne peut pas interdire ce commerce de civelle en fait.
Il est interdit, c'est bien
mais pour on ça peut, qu'il y a un trafic. On peut pêcher encore un peu.
Alors, on peut pêcher de la civelle,
dans ce sens-là,
il y a des quotas,
voilà,
des quotas de civelle. Donc on pensait à un moment que c'était simplement des pêcheurs qui, pour arrondir leur fin de mois,
revendaient.
Mais quand on a commencé à remonter les filières, on s'est aperçu. Mais la civelle est une espèce protégée, donc depuis 2010, il est interdit de l'exporter hors d'Europe. C'est pour ça qu'il y a ce trafic mondial.
Pierre-Edouard Guilin, sur ces questions-là, et puis peut-être la pêche hein, d'une manière générale, parce que là, ça nous fait bien sûr penser aussi à la pêche illégale hein, contre laquelle il y a mobilisation, mais bon, c'est compliqué. Hein.
Alors la civelle, je trouve, est un exemple très intéressant à plusieurs titres. D'une part, parce que Marc Lomazzi vient de le démontrer, ça montre que la criminalité environnementale, elle est liée à d'autres criminalités. Et que quand on remonte, on a évoqué tout à l'heure le haut du spectre, en fait, c'est une façon pour un certain nombre de gens qui font de la criminalité de se faire de l'argent facile. On a vu la cascade, hein, chaque opération génère une part de profit, ça nécessite beaucoup de gens pour le faire. Et donc, il y a toute une organisation qui est associée, et c'est une façon, entre guillemets, d'avoir une mise de fonds pour d'autres activités. Et puis, c'est une mise de fonds qui est moins risquée parce que, par rapport au trafic de stupéfiants, à l'échelle internationale ou à d'autres échelles, cette question de la criminalité environnementale, elle est moins poursuivie, elle est moins mise en avant, il y a moins de risques. Et on voit bien, même si on renforce beaucoup la coopération en la matière, que c'est pas tout à fait au même niveau que la lutte contre les stupéfiants. Et pourtant, c'est quelquefois le carburant de ce qui permet d'investir dans d'autres criminalités, que ce soit le trafic d'armes ou le trafic de stupéfiants.
Ça peut servir aussi à blanchir de l'argent.
Et bon, c'est ça fait tout partie voilà, de oui. tout ce qui a trait oui. à la criminalité en général avec tous ses travers.
Oui, parce qu'il faut quand même signaler que ce marché-là de l'environnement, en fait, il arrive juste derrière le trafic de drogue, la contrefaçon et la traite des êtres humains. Donc c'est quand même dans le haut de la criminalité.
Hein. Et ils sont liés surtout.
Ils sont liés.
On trouve des gens qui pratiquent ces différentes formes de criminalité. Ce qui est intéressant aussi dans la civelle, on l'a rappelé, c'est que c'est une espèce qui est en danger, dont le commerce est réglementé, évidemment. Hein, vous l'avez rappelé, on n'exporte pas, on fait du repeuplement aussi, donc c'est aussi des sources qui sont quelquefois difficiles à vérifier sur la destination de ces civelles. Et c'est un animal dont on connaît très peu de choses finalement, parce qu'il a un cycle qui va se reproduire en mer des Sargasses, on a un cycle qui est sur 10 ans, on a beaucoup d'inconnus. Et c'est la force de l'Office français de la biodiversité de travailler sur cet animal, sur tous ses aspects. On a des équipes qui vont travailler sur la connaissance de la civelle, de son cycle, ses taux de recrutement, c'est-à-dire de reproduction, ses taux de survie, etc. On a des équipes qui vont travailler sur les autres pressions qui s'exercent sur ces espèces, hein, en particulier tout ce qui est rupture des continuités dans les fleuves, dans les rivières. Vous savez, il faut qu'elles remontent le long des rivières. Et des fois, elles font face à des obstacles, des barrages, des infrastructures qui font qu'elles ne retrouvent pas leur lieu de reproduction. Donc, on travaille aussi là-dessus. Et puis, entre guillemets, on va jusqu'au bout, on va jusqu'à la police, on va jusqu'à la police administrative d'une part parce qu'on va fixer, on va proposer au ministre des quotas pour effectivement les captures et le repeuplement. On fait cette proposition sur des bases scientifiques.
Réserver l'espèce.
Et qu'ensuite les acteurs socio-économiques et les ministères décident de fixer le quota pour chaque saison. Et ensuite on va venir contrôler effectivement et on est très impliqué, Marc Lomazzi le décrit très bien dans son ouvrage, dans cette lutte. Et effectivement, on a besoin de travailler avec d'autres services de police parce que les techniques qui sont utilisées, on a parlé de GoFast, on a parlé d'intervention du GIGN parce que c'est des gens qui sont dangereux. Voilà, on a besoin de travailler ensemble, chacun avec nos spécificités. Nous, on va apporter notre connaissance des milieux, là où il faut aller chercher, là où on va trouver des gens qui vont venir chercher le milieu. On sait travailler sur l'identification des espèces, etc. Et puis, ben, on laisse la main quand il faut aller faire des interventions, notamment qui ont été évoquées avec ces GoFast ou ces installations illicites de reproduction des anguilles. On avait, ça a été raconté dans l'ouvrage, hein, des maisons qui sont installées pour faire de la reproduction d'anguilles.
Oui, et puis Marc Lomazzi parle aussi de la pêche illégale. Alors, et pas qu'au bout du monde, hein, on n'aura pas le temps de parler de tout dans l'émission, mais je glisse au passage, voilà, au Tréport, lutte contre la pêche illégale, un jeu du chat et de la souris aussi dans l'espace maritime français, etc. Il y a vraiment des formes multiples, on peut dire, de criminalité environnementale, et j'ai bien envie, avec vous, et avec tous les deux, de m'attarder sur un autre de ces scandales pour contourner justement les règles européennes en matière de traitement des déchets. Par exemple, écoutez ce reportage diffusé sur France Info le 18 décembre 2023.
Depuis maintenant 4 ans, il pollue les sols de la campagne mosellane. Des centaines de tonnes de déchets, de gravats venus de Belgique, déposés là par un vaste réseau qui a ainsi souillé plus d'une dizaine de communes françaises. Johnny Demeter, le principal prévenu, fait profil bas. L'homme originaire de région parisienne se présentait comme courtier en déchets. Il dit aujourd'hui tout regretter.
Je suis venu aujourd'hui ici pour reconnaître mes actes, pour voilà, tout ce qui s'est passé, pour payer de mes actes et puis essayer d'arranger tout ça.
Tout démarre près d'Anvers, en Belgique, en 2018. Le réseau propose à cette déchetterie de traiter une partie de ses déchets à moindre coût. Voici ce que le gérant des lieux déclarait il y a 3 ans à l'une de nos équipes.
Nous avons payé 108 euros la tonne pour nous débarrasser de ces déchets. Ils nous ont dit qu'ils comptaient en recycler une partie et que le reste irait dans différents endroits en France.
En tout, 10 000 tonnes de déchets sont alors importées illégalement en France. À l'aide de faux documents, les trafiquants les envoient d'abord dans des centres de tri, comme ici, près de Lille. Les entreprises de retraitement ne seront d'ailleurs jamais payées. Pour se débarrasser des déchets, les membres du réseau auraient ensuite trouvé un autre stratagème, envoyer leurs camions dans le Nord et en Moselle pour être vidés en pleine nature. En octobre 2019, les habitants de Redange, près du Luxembourg, ont ainsi vu débarquer, écœurés, 250 tonnes de déchets.
C'est dégueulasse. La première fois que j'ai vu ça, en fait, j'avais envie de pleurer. Je comprends pas, en fait, qu'on puisse se lever un matin et se dire « Tiens, c'est une bonne idée, je vais aller jeter des déchets dans la nature et puis ça va être cool, quoi. »
Marc Lomasi, alors scandale de traitement des déchets en France, trafic et mafia des déchets avec des figures du banditisme. Là, on entendait parler de ce Belge Johnny Demeter, mais il y a aussi les Hornec, etc. Donc ces histoires d'ordures déversées sur des terrains privés ou de communes, en tout cas pas traitées, et en récupérant, là aussi, une manne financière.
Ah oui, oui. Alors, qui dit grande criminalité dit figure du crime organisé. Et effectivement, Johnny Demeter, c'est un clan de Roms hongrois sédentarisé à la fois à Montreuil, ville des Hornec, célèbre figure du banditisme parisien des années 90, et à Molenbeek, en Belgique. Et donc, effectivement, Johnny Demeter est un escroc multifacette, et il est tombé, un peu par hasard, cette histoire de déchetterie d'Anvers qui débordait. Les Belges ne savaient plus quoi faire de leurs déchets, ils les stockaient, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien les évacuer. Et donc, il s'est inventé une profession, courtier en déchets. Il a usurpé l'identité d'une boîte française tout à fait légale. Et donc, quand on dit qu'il a payé 108 euros la tonne, oui, il a cassé les prix. Normalement, c'est plutôt 180 euros la tonne. Donc, les Belges ont été ravis de se débarrasser de leurs déchets, même si la figure de Johnny Demeter, alias Tchèque Saïd, virtuose du jazz manouche, et figure, disons, un peu bizarre dans le milieu des affaires, ils s'en sont débarrassés. Donc, ils ont rémunéré Johnny Demeter 700 000 euros, et il était censé aller les faire retraiter en France, donc sous une fausse identité, à part que les deux groupes français, Veolia et Suez, se sont assez vite aperçus qu'il y avait anguille sous roche, parce que c'était quand même très étrange, les bons de transport étaient bizarres, etc. Et donc, il s'est allié avec un gang extrêmement dangereux de l'Est de la France, pour aller tout simplement les déverser. Effectivement, on a parlé de Redange, il y a une dizaine de villages dans l'Est de la France qui ont vu arriver des norias de camions. Et donc, l'affaire a été prise en charge par un parquet chargé du grand banditisme de Lille, avec une juge d'instruction qui s'appelle Marion Caquel, qui a fait un boulot extraordinaire sur cette affaire, et puis un chef d'enquête de l'OCLAEPS, donc l'Office central de la gendarmerie, chargé de ces affaires d'environnement et de santé publique, parce que là encore, on voit bien le lien. C'est-à-dire que quand vous déposez illégalement des centaines de tonnes de déchets, dans le cas de Redange, par exemple, ça pollue des rivières, des étangs, oui, etc. Donc la santé publique est mise en cause. Donc là, ils ont déployé tous les grands moyens. C'est-à-dire que depuis 2016, dès qu'il s'agit de crimes environnementaux, les services de police ont la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les moyens spéciaux d'enquête, qui étaient autrefois réservés aux enquêtes contre le grand banditisme, et donc écoute, balisage des voitures, on traque les criminels, on les surveille par drone, etc. Et le clan a fini par tomber. Et Johnny Demeter, ce qui est exceptionnel dans ce genre d'affaires, a été condamné en janvier 2024 à 5 ans de prison ferme. Donc on voit bien que là, tout à coup, dans cette affaire-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va révéler au monde, à la machine judiciaire, qu'on a vraiment affaire à de la grande criminalité et qu'il faut les punir presque au même titre que les grands dealers. Oui. Même si pour les trafics de stupes, vous risquez 30 ans de prison. Donc on est encore loin. Mais enfin,
mais là, déjà, 5, c'était un pas en avant.
Condamnation, ouais.
Parce qu'en général, les condamnations ne suivent pas forcément cette criminalité verte.
Non, pour une raison simple, c'est que d'abord aux yeux d'un procureur qui va être chargé de poursuivre au nom de l'État, il apparaît beaucoup que ces histoires de déchets, d'espèces protégées, etc., c'est quand même pas du même niveau que les homicides. Bon, premier réflexe. Et puis la deuxième chose, c'est que le droit de l'environnement est un droit extrêmement compliqué.
Oui.
Il faut aller le chercher dans des multiples codes, le code forestier, le code rural, le code de la pêche, etc.
Et que la qualification pénale du crime contre l'environnement n'existe pas
dans le code pénal.
Eh oui.
Et donc les magistrats, hein, qui sont souvent débordés, oui, se replient sur des qualifications pénales qu'ils connaissent, vol, effraction, etc. Mmh. Et puis il y a une affaire sur deux qui ne vient même pas devant les tribunaux parce que l'enquête ça a été abandonné en cours de route. Quand ça arrive, on propose plutôt des transactions plutôt que des peines. Mmh. Et donc il y a une espèce de sentiment d'impunité, oui, du côté de ces criminels qui sont, encore une fois, hein, on l'a vu dans les déchets, dans les affaires des déchets du Grand Paris, il y avait une société spécialisée dans les déchets du Grand Paris, cet immense chantier de métro, de nouvelles zones d'habitation, de nouvelles zones commerciales en Île-de-France. On avait d'anciens braqueurs de la région nantaise qui étaient venus pour s'emparer de ce marché. Vous avez une figure du grand banditisme dans le sud de la France qui s'appelle Richard Pérez, dit le roi des poubelles, qui est sous le coup d'une vaste enquête parce qu'il est soupçonné d'avoir déposé illégalement dans le sud de la France et en Espagne 100 000 tonnes de déchets. 100 000 tonnes de déchets. Donc, il va passer en procès prochainement. Ça sera intéressant de voir comment ça va se passer. Et puis, on a démantelé un énorme réseau qu'on a appelé la mafia des déchets de la Côte d'Azur. 17 prévenus qui, là encore, ont déposé des centaines de tonnes de déchets dans des zones protégées, des zones Natura 2000, etc.
Et ce que vous expliquez, c'est qu'en Corse aussi, par exemple, le secteur a été infiltré par le crime organisé, etc. Je rappelle quand même que la criminalité environnementale aurait, selon Interpol, augmenté de 40% dans le monde entier en 10 ans, et que ce business juteux donc rapporte entre 80 et 230 milliards de dollars par an, selon toujours Interpol, avec des gangs, des professionnels du crime et du trafic organisé. Pierre-Édouard Guillain, sur ces questions-là, oui, vous avez beaucoup à dire, hein, et puis peut-être aussi le côté justice, création de pôle environnement dans les juridictions, voilà, je vous laisse réagir.
Effectivement, la question de la sanction qu'on peut apporter, elle est importante parce que, comme je le disais, c'est un trafic qui peut être juteux et avec moins de risques. Et donc, il faut réussir à être dissuasif. Alors, depuis la loi de 2021 Climat Résilience, on a quand même introduit la notion d'écocide et surtout, on a introduit le fait de pouvoir asseoir la peine sur les avantages reçus. Donc on peut, au-delà de l'amende à 250 000 euros d'amende, on peut être condamné. Ça peut être porté à 3 fois l'avantage qui est tiré du trafic, voire même en cas donc dans cette réaction qui avait été créée d'écocide, c'était 4,5 millions d'amende ou le décuple, donc le x10 de l'avantage qui est tiré. Donc c'est intéressant d'avoir introduit ces notions-là parce qu'elles manquaient effectivement. Le jeu en valait l'amende entre guillemets, mais là calant entre guillemets la possibilité pour le juge de prononcer une peine qui est liée à l'avantage, on espère rentrer dans un monde plus dissuasif. Mmh. C'est récent, c'est la loi de 2021, il faut qu'elle prenne tout son ampleur. Le sujet aussi qui nous intéresse toujours en matière environnementale, c'est le fait surtout que le milieu soit restauré. Parce que c'est bien d'envoyer les gens qui sont délinquants en prison, c'est bien
qu'ils payent des amendes. Et les polluants qu'ils ne restent pas dans l'environnement.
Il faut retrouver un milieu qui soit fonctionnel et qui ne pose pas de problème de santé. C'est là où est apparue la notion de préjudice écologique aussi, qui a fait quand même quelques belles condamnations aussi et de belles réparations. Nous, on travaille beaucoup pour justement appuyer les magistrats sur l'estimation de ce préjudice écologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a mis des tonnes de déchets dessus, il y a des lixivias, c'est-à-dire du lessivage de ces déchets qui sont rentrés dans les nappes. Ça a provoqué éventuellement de la disparition d'espèces parce que on est venu posé sur des endroits où il y avait peut-être un certain nombre d'espèces intéressantes ou des
ça
fonctionnalités
pollue les nappes phréatiques,
ouais. Zones humides, enfin voilà. Ouais. Donc nous, notre travail, ça va être de chiffrer ce préjudice écologique et entre guillemets de présenter la facture en disant au juge, voilà, l'environnement, il a souffert, voilà quoi on estime, et on estime qu'il faut le remettre en état. Et donc c'est pas juste payer quelque part, c'est bien payer pour remettre en état le milieu et obtenir une réparation de l'environnement, ce qui pour nous est essentiel.
Bien sûr, et alors on n'a parlé que des déchets, mais vous mentionnez aussi, Marc Lomasi, je vous donne la parole dans un instant, le trafic de déchets polluants, métaux lourds, débris d'ordinateurs, de téléphones portables, de pneus usagés, etc. La législation européenne est devenue plus dure, donc il y a des contraintes aussi de traitement de ces déchets, et que souvent ces déchets, on les envoie dans des pays dépotoirs, hein, enfin qu'on estime l'être en tout cas, Philippines, Pakistan, Thaïlande, Mauritanie, etc., etc.
Oui, ce dont on parle, le renforcement des sanctions, des amendes et puis la réparation du préjudice, etc., ça peut être dissuasif quand vous avez affaire à des entreprises. Quand vous avez affaire à des réseaux criminels, par exemple, si on reparle de ce Johnny Demeter, il s'est mis dans la poche entre 2019 et 2021 1 million d'euros qu'on n'a jamais retrouvé. On n'a jamais retrouvé le million d'euros. Il est insolvable, il n'a officiellement pas d'argent. Donc, le maire de Redange, par exemple, il a toujours son monceau de déchets dans sa commune. Il sait pas vers qui se tourner. La région lui dit c'est pas nous, le département lui dit c'est pas nous, la Belgique répond pas. Ça coûte 300 000 euros pour dépolluer le site. Il a pas les moyens. Donc, il sait pas comment se sortir de ce. Et ils sont des dizaines de communes dans ce cas-là. Donc c'est très compliqué dès lors que vous avez affaire à des groupes criminels qui savent tout à fait bien organiser leur insolvabilité d'une part, et d'autre part planquer le magot tiré de leurs arnaques dans des pays, on parle beaucoup des paradis fiscaux, mais dans des pays tout simplement où le secret bancaire est absolu, et donc c'est très difficile d'aller les chercher. Quand vous faites des commissions rogatoires internationales, il n'y a pas beaucoup de réponses, donc ça ne va pas être dissuasif pour les criminels.
Alors, il faut aussi préciser que quand ils déversent les déchets, hein, ça peut être sur des terrains communaux, mais aussi sur des terrains privés, que là, il y a menace de mort si les propriétaires remuent un petit peu trop, ou les maires, en l'occurrence. Allez, il est temps d'écouter le choix musical. Ce sera le vôtre, Pierre-Édouard Guilin. Vous avez choisi de nous faire écouter Midnight Oil, Beds Are Burning. Il y a une vraie raison à cela. Hein. Vous allez rentrer dans une petite confidence quand même.
Oui, en fait, je vous ai proposé ce morceau qui doit être un classique de l'émission, je pense. Ça ne doit pas être la première diffusion.
Non, on a regardé, ça fait un petit moment quand même.
Ah, vous n'aviez pas diffusé depuis avant. Non, c'est une histoire très personnelle parce que c'est un album que j'avais offert à un de mes camarades quand j'étais en prépa, en classe biologie, chimie, physique, sciences de la Terre, c'était le prélude à mes études et à mon parcours professionnel dans les sujets de forêt, d'eau, d'environnement et de biodiversité. Et donc c'est un petit rappel, voilà, que moi je suis pas issu d'un milieu militant écologiste, hein, c'était très à la mode dans les années 70, mais je ne suis pas issu de ce mouvement-là. Je ne suis pas non plus issu d'une famille de naturalistes chevronnés, mais je pense que je fais partie de cette génération, alors il y a peut-être un peu avant, un peu après, de gens qui, par leurs études, ont pu bénéficier, parce que les écoles avaient beaucoup changé dans leur fonctionnement, dans leur approche des sujets, d'une sensibilité à ces questions environnementales, et puis de pouvoir en faire son métier quelque part, sans être un militant, sans être un scientifique pointu, mais pouvoir apporter, par mon métier d'ingénieur, des solutions à ces crises environnementales. Voilà.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back.
How
Midnight Oil, Beds Are Burning, c'est le choix musical de Pierre-Édouard Guilin et en compagnie justement de nos deux invités, Pierre-Édouard Guilin, directeur délégué police connaissance expertise de l'OFB et de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, et avec Marc Lomasi, journaliste spécialiste des sujets liés à l'environnement, auteur du livre noir de la criminalité verte, un livre édité chez Calman Lévy. Eh bien, nous poursuivons notre émission consacrée à la criminalité verte, révélation sur la réalité et la d'un business juteux, une criminalité qui sévit notamment en France où les agents de l'OFB tentent de remplir leur rôle malgré les récentes attaques subies et les dénonciations proférées.
Ce n'est guère dans leurs habitudes que d'aller manifester. La distribution de tracts n'est pas leur fort. Mais les agents de l'Office français de la biodiversité ressentaient le besoin d'exprimer enfin leur mal-être sur la place publique. Chacun conserve dans son téléphone les traces des souillures régulièrement laissés devant leur bureau par des agriculteurs.
Ce qui est pénible, c'est sur la durée en fait. Ça fait plus d'un an là qu'on se fait taper dessus et c'est fatigant à la longue.
Il y en a une qui est pas mal aussi. Régulons les nuisibles.
À tour de rôle, la coordination rurale, les FDSEA, les jeunes agriculteurs reprochent à la police de l'environnement de contrôler les fermes.
C'est une minorité d'entre eux. Donc une minorité de fouteurs de troubles, en fait, nous mettent carrément une cible sur le dos. Donc on ne peut que mal le vivre.
Ce qui les affecte plus encore que ces actes d'intimidation, c'est la phrase lâchée par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale.
Quand les inspecteurs de la biodiversité viennent avec une arme à la ceinture dans une ferme déjà mise à cran par la crise, c'est une humiliation. Et c'est donc une faute.
Quand les agents de l'OFB vont dans des fermes en tenue, ils oublient de dire que ça nous est imposé. On est obligé d'y aller en tenue complète, avec le ceinturon, tout ça. Hein. On a des instructions, on ne s'amuse pas, on n'est pas des francs-tireurs. Et il dit que c'est une faute. Appliquer les textes qui nous sont imposés, c'est une faute. On se sent complètement lâché.
Reportage diffusé sur France 3 Normandie le 31 janvier 2025. Attaque d'agriculteurs, surenchère du côté des partis politiques. Sentiment d'être lâché, c'est ce qui a été ressenti à l'OFB, Pierre-Édouard Guilin.
C'est effectivement une période qui a été difficile pour l'établissement et qui nous fait réfléchir justement sur ce que doit être une police de l'environnement et sa perception dans notre société. On avait d'ailleurs réalisé il y a quelques mois un sondage par Harris qui a montré que pour autant les Français attendaient une police de l'environnement. Alors toujours en espérant que ça soit plutôt l'autre qu'on contrôle, hein, c'est notre petit côté français, évidemment, de considérer que c'est toujours le voisin qu'il faudrait aller contrôler dans son activité, mais pour autant, on a bien une police dont les gens estiment qu'elle est nécessaire parce que ils considèrent qu'il y a des enjeux environnementaux auxquels il faut répondre, qu'il y a des comportements qui doivent être encadrés, et qu'il faut donc une police de l'environnement. Après, il faut travailler sur l'enjeu. Quel est l'enjeu qu'on veut protéger? Tout à l'heure, je disais, ben voilà, il faut qu'on soit en mesure d'expliquer pourquoi on va faire des interventions sur les produits phytosanitaires, parce que c'est un enjeu de santé publique, pour le riverain qui est là, mais pour l'agriculteur qui traite aussi, évidemment, pour la protection de la ressource qui peut être impactée ou pas, suivant la pratique, suivant l'usage. C'est pas systématique, c'est pas parce qu'on utilise des produits phytosanitaires qu'il y a un impact sur l'eau, mais si on le fait mal, si on le fait pas au bon moment, il peut y en avoir un.
Et donc, si on le fait trop,
là, voilà, qu'on va venir intervenir. C'est la même chose sur les trafics d'espèces. Quel est le risque que l'espèce disparaisse et donc qu'elle entraîne avec elle une disparition de d'autres espèces, parce que le vivant, c'est un tissu. Si vous enlevez une maille, tout se délie. C'est ce que disait Robert Barbeau, qui était un grand écologue.
Ça vaut pour les quotas aussi de chasseurs, hein, les quotas des espèces aussi, pour pas nuire à l'espèce, justement, des choses comme ça.
Voilà, il faut se donner des règles. Et pour accepter la police, il faut que les règles, elles soient comprises au regard de l'enjeu qu'on veut protéger. Et donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup, et on a renforcé cette action-là, sur quels sont les enjeux, pourquoi je les contrôle, quelle est la norme qui a été déterminée. C'est jamais l'Office français de la biodiversité qui impose la norme. Il ne fait que la constater. Il l'environne aussi. Il dit, ben voilà, ça s'est passé dans telle circonstance, sous telle forme, à tel moment, etc. Et c'est bien après l'action judiciaire qui va être, le cas échéant, mise en mouvement pour décider si effectivement il y a eu une infraction et donc s'il y a besoin d'une sanction. Mais on travaille vraiment aussi sur l'accompagnement, la pédagogie, l'explication. Et c'est pour ça que l'OFB, c'est pas qu'un établissement qui fait de la police. On fait de l'accompagnement des acteurs. Notre objectif, c'est de leur trouver aussi des solutions par rapport aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Quand on a des questions de ressources en eau, on va les emmener aussi sur des façons de déterminer les prélèvements possibles, les volumes prélevables, etc. Et donc, c'est cet accompagnement aussi qu'on essaie de proposer.
Marc Lomasi, accompagnement des citoyens. Là, dans ce cas et ce qui s'est passé en début d'année, accompagnement des politiques aussi, parce qu'on a quand même entendu des politiques demander, appeler à dissoudre l'OFB. Mmh. Et cela montre une totale méconnaissance de l'État, des infractions et des trafics. Est-ce qu'on peut parler d'aveuglement en haut lieu par rapport à ce qui se passe sur le terrain? Et on va en parler justement avec vous de ce qui se passe sur le terrain.
Il y a deux solutions. Soit les politiques qui ont réclamé, alors plutôt à droite, qui ont réclamé la dissolution de l'OFB, ou il y a un rapport du Sénat qui réclamait également le désarmement des agents de l'OFB. Deux solutions. Soit ils ne connaissent pas le sujet, et donc c'est de l'incompétence, soit ils connaissent le sujet et ils surfent sur la colère, l'exaspération des agriculteurs, qu'on peut comprendre par ailleurs, et plus généralement l'exaspération des Français contre ce qu'on a appelé l'écologie punitive.
Oui.
On change, on modifie le DPE de votre appartement, et puis vous aurez plus le droit de le louer, on interdit les voitures diesel, etc. Donc ils surfent sur ce ras-le-bol supposé des Français contre les mesures écologiques pour un calcul simplement électoral, en se disant comme le Front National est très au bord du climato-scepticisme et en tous les cas jette à la poubelle l'ensemble des mesures écologiques dans notre pays, alors qu'on est par ailleurs contraint par des obligations climatiques européennes, etc.
Donc ce qui est contre-productif pour l'environnement, la santé environnementale et la santé publique, hein.
Voilà, soit ils sont incompétents et c'est grave, soit ils connaissent parfaitement le sujet mais ils réclament en quelque sorte la tête de l'OFB au nom d'un petit calcul politique. Donc tout ça est quand même assez inquiétant, et on l'a dit, c'est monté jusqu'au plus haut niveau de l'État. Oui. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé en tant simplement que de citoyen, c'est qu'un groupe, quel qu'il soit, là en l'occurrence des agriculteurs, s'attaque d'abord à des forces de l'ordre. Avec des menaces de mort, c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable.
Répréhensible,
et puis réclame un statut hors la loi, parce que c'est bien ça. Oui. C'est de dire ne pénétrez pas dans nos exploitations, dans nos fermes, ne contrôlez pas. Nous, la loi, en tous les cas, vous viendrez pas nous contrôler. Alors, un agent de l'OFB avait peut-être dit de manière un petit peu maladroite, mais au fond, je trouve qu'il avait raison. C'est comme si des dealers dans des cités disaient à la police ne venez pas nous contrôler, c'est chez nous, ne venez pas nous contrôler. Donc voilà,
vous,
tout
vous,
ça.
Vous parlez de ces accrochages qui ont eu lieu en début une année notamment, c'est ça?
Non, je parle des déclarations d'un enquêteur d'un syndicaliste de l'OFB qui avait comparé en quelque sorte les agriculteurs à des dealers. Mmh. Ça avait été évidemment très mal pris, parce que les agriculteurs sont pas des dealers, évidemment, mais l'exaspération du monde agricole ne justifie pas tout.
Alors, mais certains, malgré tout, et attention, hein, il ne s'agit pas de parler du monde agricole dans sa totalité, sa globalité, mais dans ce monde, certains se permettent des trafics, hein, et pas des moindres, puisqu'il y a la revente illégale de produits phyto, Monsanto, par exemple, interdit en France, glyphosate et autres. Et là aussi, une arnaque s'est glissée dans les failles de la réglementation européenne.
Oui, tout à fait. Alors, le glyphosate est autorisé pour les agriculteurs jusqu'en 2033, mais il y a toute une série de pesticides qui sont interdits et donc qui peuvent être tout à fait interdits en France et autorisés dans d'autres pays. Et donc, il y a un trafic qui s'est mis en place, hein, qui consiste à déguiser en quelque sorte des pesticides illégaux en France en pesticides légaux. Et donc les agriculteurs s'approvisionnent comme ça en pesticides. La France est le premier consommateur européen de pesticides, avec les dégâts environnementaux et sur la santé publique qu'on connaît. Et effectivement, on a vu à l'occasion d'un procès retentissant en Normandie, des agriculteurs devoir s'expliquer devant la justice parce qu'ils avaient, en l'occurrence, des carottes des sables de créance, qui sont des carottes qui bénéficient d'un label, oui. Qui sont des carottes de très grande qualité, etc. Ils ont utilisé un pesticide, le dichloropropène, qui est interdit depuis 2018 ou 2019, en le faisant venir d'Espagne où il est autorisé, ce qui est quand même un problème de réglementation européenne. Mais en tous les cas, c'était illégal. Donc là, en l'occurrence, c'est la Brigade nationale d'enquête vétérinaire qui s'est occupé de cette affaire. Ils ont fait venir, comme on fait dans le trafic de stupes, ils ont fait venir des importations illégales de pesticides, ils ont épandu la nuit leurs pesticides, et les enquêteurs ont montré que non seulement c'était illégal, mais qu'en plus, on leur avait refourgué, en quelque sorte, du pesticide de contrefaçon, du pesticide frelaté. Et donc, on ne sait pas du tout, pour les consommateurs qui ont mangé ces carottes des sables, quels vont être les effets sur la santé. Cette affaire a montré que, et c'est bien documenté à la fois par les enquêtes menées par les différents services et par le ministère de l'Intérieur, qu'il y a une face cachée de l'agriculture française, qui est un trafic absolument gigantesque de pesticides, soit de contrefaçon, soit de pesticides importés illégalement. Et donc, les agriculteurs, quand ils manifestent contre des camions de production venus du Maroc ou d'ailleurs qui sont produits, ou comme on le voit dans l'actualité avec les produits qui vont venir dans le cadre du Mercosur ou du libre-échange avec le Mercosur, des produits vendus en France mais qui ont été traités avec des pesticides qui sont interdits dans notre pays, ils ont raison de se révolter. Ok, ce qu'on ne dit pas, c'est que eux-mêmes.
Alors pas tous, hein.
Pas tous, évidemment, voilà. Mais ceux qui ont été poursuivis. Ouais,
ceux qui ont été poursuivis, parce que j'allais vous poser la question, est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente, en fait, à l'échelle de la France? Ces pratiques-là, est-ce qu'elles sont vraiment généralisées ou est-ce que ça reste quand même anecdotique?
Pour donner un ordre de grandeur, l'achat de pesticides par les agriculteurs, qui sont les clients essentiels, c'est environ 4 milliards et demi d'euros par an. Le ministère de l'Intérieur, qui a documenté dans son rapport annuel sur la criminalité environnementale ce sujet, estime que environ 2 à 2,5% sont des pesticides illégaux.
D'accord.
Donc voilà la proportion. Ça fait 200-300 millions de ce marché noir des pesticides, disons. Mais ce qui est plus inquiétant encore, c'est qu'on a découvert à l'occasion des différentes enquêtes, et notamment des enquêtes menées par Europol, dont on parlait au début, qu'il y a de véritables ateliers clandestins de contrefaçon de pesticides établis dans les pays de l'Est, hein, avec des filières d'importation. Et puis tout est fait, enfin c'est vraiment du crime organisé, c'est-à-dire que les produits actifs des pesticides sont produits en Inde ou en Chine, sont importés, sont fabriqués en Angleterre, conditionnés en Allemagne, etc. Tout ça passe par des comptes offshore et ça arrive dans l'épandage de nos champs. Donc il y a des agriculteurs, évidemment pas tous, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font très bien leur travail, mais des agriculteurs qui sont les clients finaux de ce vaste réseau de trafic de pesticides.
Pierre-Édouard Guilin, je ne sais pas si vous êtes expressément avec l'OFB sur ces sujets-là.
On a participé effectivement à des opérations, notamment de lutte contre des ventes de produits phytosanitaires interdits via Internet. Donc on a, avec nos collègues de l'OCLEPS, du BNEVP et puis nos enquêteurs, travaillé sur le démantèlement d'un réseau qui faisait de la vente sur Internet de produits qui n'auraient pas dû être vendus. Donc on a cette veille Internet qui concerne malheureusement tout le commerce, hein. Ce qu'on évoque, c'est aussi la technique des faux médicaments, hein. On est très proche, hein. À partir du moment où on a une substance active, grosso modo, elle peut intéresser des gens, donc on a trafic de médicaments. C'est pour nous une affaire assez exceptionnelle qu'on a fait, hein. C'est loin d'être le sujet qu'on rencontre le plus souvent, heureusement. C'est aussi une question d'équité, entre guillemets, entre tous les producteurs agricoles, notamment entre ceux qui ont font leur travail avec les règles qui sont celles qui sont données par le cahier des charges, par la réglementation, etc. Et puis ceux qui ne jouent pas le jeu et donc qui doivent être dans ces cas-là poursuivis.
Et en sachant que des produits contrefaits peuvent être extrêmement dangereux et pour eux, pour ceux qui utilisent, et pour ceux qui
peuvent
consomment.
Être moins bien conditionnés. Alors, voilà, ils peuvent avoir des doses qui sont pas forcément très bien gérées, très bien affichées. Il peut y avoir des confusions dans l'usage, etc. Donc c'est effectivement une question de protection et puis d'équité. Je le redis entre les agriculteurs qui sont concernés par ce sujet.
Alors que Marc Lomasi, beaucoup de choses dans votre livre, je le redis, mais peut-être aller en quelques minutes, portons notre regard sur un autre trafic juteux, c'est celui du trafic d'animaux de compagnie. En France, on estime que 75 000 chiens de race seraient volés chaque année, 50 000 importés illégalement, et donc ensuite revendus avec des pays pourvoyeurs comme la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque. On est face, là aussi, à un énorme trafic qui joue sur cette attirance pour les animaux.
Oui, la France est probablement le pays au monde où les animaux de compagnie sont vraiment. Il y a plus d'animaux de compagnie en France que d'habitants. Donc c'est absolument exceptionnel et les gens feraient n'importe quoi pour avoir des animaux de compagnie. Donc effectivement, on trouve des élevages clandestins encore une fois dans les pays de l'Est ou dans des conditions absolument épouvantables, des usines à chiots absolument incroyables. On importe 50 000, ça ce sont les chiffres de la BNEVP, la Brigade nationale d'enquête phytosanitaire et vétérinaire. 50 000 chiots sont importés illégalement chaque année en France, revendus souvent par des sites internet type Le Bon Coin, eBay ou d'autres sites un peu plus spécialisés. Ça pose d'ailleurs la question de la responsabilisation des consommateurs finaux qui vont acheter sans trop y regarder des chiens alors qu'il est très facile d'aller dans les refuges. Et puis c'est un marché qui est extraordinaire parce que pour les criminels, parce que c'est un marché qui obéit à des modes.
Alors oui, selon les stars, Taylor voilà. Swift et son Scottish Fold ou des séries comme Game of Thrones qui suscitent des appétences pour telle
des appétences, il y a des appétences telle race. Incroyables. Dans la série Game of Thrones, la famille Stark, chacun des enfants est protégé par un loup géant. Donc il y a un réseau qui s'est mis en place pour fournir des bébés loups géants aux gens. Il faut savoir que quand vous avez un bébé loup géant, le bébé loup géant, au bout d'un moment, il va devenir un loup géant. Donc,
Pierre-Édouard Guilin, justement, allez, en une minute, il faut dire que l'OFB est sollicité justement sur ces prises d'animaux sauvages. On parlait du loup géant, mais les pitons, les félins, vous êtes sollicité pour les récupérer et les placer.
Alors effectivement, on s'inscrit beaucoup dans cette lutte. On pourrait citer le fameux Chardonneret qui élégant, une histoire. Les agriculteurs se plaignaient d'avoir des filets qui étaient percés sur leur champ de tournesol. En fait, on s'est rendu compte que c'était parce que des gens venaient récupérer les chardonnerets qui venaient sur le tournesol et donc ils écartaient. Donc voilà, on est allé aider les agriculteurs à mettre fin à cette dégradation de filets. Tout simplement parce que le chardonneret, tout le monde aime bien l'avoir chez soi, c'est très joli, etc. Mais c'est un trafic énorme auquel on lutte régulièrement.
Il a quasi disparu à l'état sauvage en Algérie et en Tunisie, il faut le dire.
Effectivement, on est de plus en plus saisis pour des animaux qui sont déposés dans les parcs parce qu'on n'en veut plus, du piton qui est devenu trop important. Donc notre rôle, c'est pas d'aller capturer, ça c'est le travail des pompiers, mais d'aller trouver des gens qui vont en prendre soin après et d'être de leur offrir une deuxième vie qui soit plus heureuse que celle qu'ils ont pu connaître.
Eh bien voilà, un joli rôle aussi. Merci à tous les deux. Merci Pierre-Édouard Guilin, direction le site de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, via notre page d'émission pour en savoir plus. Marc Lomasi, à lire votre livre noir de la criminalité verte, édité chez Kalman Lévy. Et puis à vous conseiller aussi le livre Crime contre nature, édité chez Artaud, de l'enquêteur Louis Rochard, que nous recevrons bientôt d'ailleurs, d'ici la fin de l'année. Et ce sera la suite de cette plongée dans le crime environnemental à l'échelle planétaire. Informations, bibliographies sont toujours à votre disposition, comme d'habitude, sur le site franceculture.fr, rubrique de Cause à effet, où d'autres podcasts en lien avec le sujet ont été sélectionnés expressément pour vous. We'll be right back.